avait son idée d'une couleur dominante. Bon, son violet, par exemple. Et il faisait une première gamme. Alors là, il était peintre. C'est ça, être peintre. Il faisait une première gamme. Gamme que je vais appeler, vous allez voir pourquoi, gamme de lumière. Il faisait sa gamme de lumière. Vous sentez à quel point on est déjà... Ça va frôler, en effet. Il faudra que vous me posiez la question et à laquelle je ne répondrai pas, et bien, il substituait au cliché de départ un nouveau cliché. C'est évident. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester longtemps dans cette technique. Bon, il faisait sa gamme de lumière, ça veut dire quoi? Il avait la photo projetée et il peignait le tout en violet, le violet choisi, mais en allant des zones claires aux zones sombres. Qu'est-ce que ça voulait dire au niveau de la peinture? Ça veut dire que pour les zones claires, il mélangeait son violet à du blanc. Ah, ça c'est un acte de peintre. Et que pour les zones sombres, il y avait de moins en moins de blanc, et à la fin, pas de blanc du tout. C'était le pur violet jailli du tube. Vous voyez. Il faisait donc une gamme de lumière, de luminosité, obtenue par le mélange variable du blanc avec ce violet. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Ça, c'était pour le fond. Et pour le fond. Ou par exemple, pour le magasin. Mais le photographe avait pris une scène de rue, j'ai bien précisé, c'est-à-dire des gens passant devant le magasin ou des gens sur la porte de la boutique, tout ça. Le violet qu'il avait choisi, c'était techniquement, pour ceux qui voient cette couleur, c'était un violet de Bayeux, c'est-à-dire un violet qu'on appelle chaud. Plus tard, quand on parlera de la couleur plus précisément, mais la plupart d'entre vous le savent déjà, l'opposition des couleurs du point de vue de la tonalité, l'opposition fondamentale, est celle du chaud et du froid. Le chaud, enfin, très gros, je dis, tout ça est très insuffisant, puisque je ne parle pas encore de la couleur. Le chaud étant une espèce de... définissant une couleur avec un vecteur d'expansion, de mouvement d'expansion, le froid avec un mouvement de contraction. Dans les couleurs élémentaires, le jaune est dit chaud, le bleu est dit froid. Bon. Alors, son violet de Bayeux, là, c'était un violet chaud. Là-dessus, il avait donc établi sa gamme de lumière. Il allait passer à une gamme de couleurs. Il faisait une gamme ascendante de lumière, hein, vers le violet de Bayeux pur. Il allait faire maintenant une gamme de couleurs. C'est-à-dire, la dominante violet étant chaude, il allait peindre un bonhomme en vert, par exemple en vert froid. Dans un vert froid, s'il y a des verts froids, le chaud et froid étant relatif et dépendant des teintes. Il faisait un vert froid. Donc, du point de vue de la couleur, il y avait cette opposition du vert froid, du petit bonhomme en vert froid, et de la dominante violet. Ça servait à quoi? La juxtaposition de la zone vert froid par rapport au violet avait pour but, comme disent les peintres, de chauffer encore plus le violet. Bon, admettons. On verra tout ça au point de vue d'une conception très simple des couleurs. Vous voyez, quand vous vous trouvez devant, par exemple, un tableau impressionniste, vous avez tout le temps ces choses. les rapports de complémentaires, les rapports de chaud et de froid, comment une couleur froide chauffe encore plus une couleur chaude, etc. Bon, donc le vert froid chauffait encore plus le violet. Bon, mais par rapport au vert froid comme nouvel élément, qu'est-ce qu'il allait faire ? Et se dessine à ce moment-là tout un circuit de couleurs. Il allait peindre un autre bonhomme en jaune chaud. Cette fois-ci, le jaune chaud, vous voyez, n'était pas en relation directe avec le vert, avec le violet, mais il était en relation avec le violet par l'intermédiaire du vert froid, etc., etc. Il allait faire sa gamme de couleurs jusqu'à ce que tout le tableau soit rempli. Qu'est-ce qu'il avait fait, là, pour revenir à notre thème ? En quoi il y a une espèce de diagramme ? Où était le diagramme, là ? C'est que dès le début, il ne s'agissait que d'une chose. Ce serait un mauvais cas, précisément un mauvais exemple, et on aura à se demander si ce n'est pas toujours comme ça chez les peintres qui ont eu rapport avec la photo. Bien loin de servir de la photo comme si elle était un élément de l'art, il neutralisait complètement la photo et le cliché. Il neutralisait le cliché de telle manière. Il le projetait sur sa toile, mais c'était tout à fait une manière de conjurer le cliché, beaucoup plus que de s'en servir. Puisque l'acte de peindre ne commençait qu'à partir du moment où la photo allait être annulée au profit d'une première gamme de lumière, d'une gamme ascendante de lumière et d'une gamme de couleurs. Bon. Alors, là, on retrouve mes trois temps. Le moment prépictural, cliché, cliché, rien que de cliché. La nécessité d'un diagramme qui va brouiller, nettoyer le cliché. Pour qu'en sorte quelque chose, le diagramme n'étant qu'une possibilité de fait, le cliché, c'est le donné. C'est ce qui est donné. Donné dans la tête, donné dans la rue, donné dans la perception, donnée partout. Bon. Vous voyez, alors, le diagramme intervient comme ce qui va brouiller le cliché pour que la peinture en sorte. Bien, je retrouve mes trois noms là. Mais je dis lutte contre le cliché, peut-être est-ce que personne ne l'a mené alors aussi passionnément, aussi, je dirais qu'il a justifié ce mot plus tard, aussi hystériquement que Cézanne. Cézanne, il me semble que chez Cézanne, il y a une extraordinaire conscience. Ma toile, avant même que je la commence, est pleine de clichés. Et l'espèce d'exigence jamais satisfaite de Cézanne, c'est comment chasser tous ces clichés qui déjà occupent la toile. C'est une lutte avec l'ombre. Seulement, ma question, et on verra ce que ça peut vouloir dire, j'ai l'impression que les vraies luttes, c'est des luttes toujours avec l'ombre. Il n'y a pas d'autre lutte que la lutte avec l'ombre. Les clichés sont déjà là, mais ils sont dans ma tête, ils sont en moi, quoi. Sans moi, ils n'ont pas besoin. Et quand Fromanger les fait surgir pour les mettre sur sa toile, afin de les détruire et d'en faire sortir un fait pictural, c'est une manière déjà de les conjurer. Ils sont déjà là. Et ils sont tellement déjà là que là, je reprends la liste des dangers. Si vous ne passez pas par le chaos catastrophe, vous resterez prisonnier des clichés. Et on pourra dire, ah oui, oh, il a un joli coup de pinceau. Ça ne vaudra rien et sans doute le peintre le saura lui-même que ça ne vaut rien. Donc, ne pas passer par le chaos catastrophe, c'est-à-dire ne pas avoir de diagramme. C'est très très fâche. Ça veut dire ne rien avoir à dire, ne rien avoir à peindre. Il y a beaucoup de peintres qui peignent et qui n'ont rien à peindre. Bon. Mais
Il y a quelque chose qui est aussi
malmener le cliché. Malmener le cliché. Triturer le cliché. Ça paraît tout proche du diagramme, du chaos catastrophe. Et pourtant, vous devez sentir que c'est dit. J'essaie de... C'est comme un pressentiment de tous les dangers, de tous les dangers pratiques. C'est beaucoup trop volontaire, malmener le cliché. Ça, malmener le cliché, les photographes ne cessent pas de le faire. C'est pas par là qu'ils viennent des peintres. Bon, on peut toujours malmener le cliché. Triturer tout ça. C'est pas, ça va pas non plus. D'autre part, je disais, le danger que signalait Clé, si le diagramme, si la catastrophe, si le chaos prend tout, c'est pas bien non plus. En d'autres termes, on ne cesse pas d'être entouré de dangers, là, de dangers très très redoutables. Hein. Alors, je pense à un texte, je ne vais pas le lire parce que j'ai de la peine à lire, je vais lire que j'aurais voulu vous le lire, c'est un texte de Lawrence, dont je crois que je vous avais parlé, juste, vous le lirez vous-même, c'est dans le recueil d'articles qui est apparu en français sous le titre « Héros et les chiens », où il y a un texte splendide sur Cézanne, splendide. Où le thème du texte, il me paraît tellement beau, hein, parce que c'est... Lawrence, vous savez, il faisait des aquarelles, hein, surtout à la fin de sa vie, il faisait des aquarelles, elles ne sont pas très bonnes, mais il le savait, hein, il le savait, il en avait besoin. Miller aussi faisait des aquarelles, hein. Churchill aussi, mais elles sont encore moins bonnes. Barthes, il faisait des aquarelles, ça fait bon, peut-être. Alors, bon, Lawrence, il dit, ben voilà, vous comprenez, Cézanne, c'est ça. Et c'est pour ça que je voudrais que vous lisiez ce texte. Il dit, jamais un peintre n'a poussé aussi loin la lutte préalable contre le cliché, avant de peindre. Et il dit, et c'est ça, là où le texte m'intéresse beaucoup de Lawrence, c'est qu'il dit, mais vous savez, Cézanne, il avait complètement ses propres clichés. Et en effet, il pouvait faire... le peintre qui se soumet à ses propres clichés, c'est quoi? C'est lorsque le vrai peintre fait des faux. Vous savez. Comme si on se dit, oh, ben, ça c'est, bien sûr c'est un Cézanne, mais c'est tout proche d'un faux Cézanne. Hein, on a l'impression qu'il n'était pas en forme. Bon. Pour ceux qui ont vu, vous m'avez été il n'y a pas longtemps à l'exposition Modigliani. Curieux, il y a vraiment des Modigliani où on a presque l'impression. Il y en a d'admirables, de prodigieux, mais c'est un peintre là où, je ne sais pas, il y avait quelque chose, pardonnez-moi, j'ai une impression un peu de gêne, comme s'il avait été trop doué, hein, comme s'il y avait des Modigliani qui étaient à la limite, quoi, à la limite un excès de don. Ou un excès de facilité. Heureusement, Cézanne, il n'avait aucun don. Aucun don. Et alors, sa lutte contre le cliché, ça l'amenait à quoi? Ça l'amenait à quoi, cette lutte contre le cliché? Les pages de Lawrence sont très belles. Oui. À la fin, il dit, ben oui, qu'est-ce qu'il a réussi, Cézanne? Bon, et bien la formule très belle de Lawrence, il dit, ben oui, finalement, il a compris picturalement le fait. Le fait de Cézanne, c'est quoi? Ce qu'il a saisi, ce qu'il a fait, ce qu'il a amené à la peinture, c'est par exemple le fait de la pomme. Ça, la pomme, il a compris. La pomme, il a très très bien compris. Jamais quelqu'un n'a compris une pomme comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre en tant que peintre. Comprendre une pomme. Ah, ça va être notre problème. Mais ça veut dire la faire advenir comme fait. Ce que Lawrence appelle le caractère pommesque de la pomme. Le caractère pommesque de la pomme, voilà ce que Cézanne a su peindre. Bon, mais bien, à l'issue de quoi? De quelle lutte contre le cliché? Quelle recherche, là? où César n'était jamais satisfait. En revanche, il dit, les paysages, ça va moins bien, quelle que soit la beauté des paysages. Oui, il dit, le problème de César, c'était que s'il avait tellement compris le caractère promesse de la femme, il n'avait pas tellement compris, par exemple, le caractère féminesque des femmes. Et non, ça. Ces femmes, et il dit cette page merveilleuse, je crois, où Laurent se dit, ces femmes, il est peint comme des pommes, et c'est comme ça qu'il s'en sort. Madame Cézanne, c'est une espèce de pomme. Oui. Ça n'empêche pas que c'est des tableaux géniaux, il ne s'agit pas de... Laurent se dit, c'est forcé. Si à la fin de sa vie, un peintre peut dire comme Cézanne, j'ai compris la pomme et un ou deux pots, c'est déjà formidable. Michel-Ange, qu'est-ce qu'il a compris? On peut transposer et chercher à savoir quelles fêtes ils ont amené. Je dirais, Michel-Ange, entre autres, ils n'ont pas compris grand-chose, vous savez, c'est comme tout, un écrivain, ça ne comprend pas grand-chose, un philosophe, ça ne comprend pas grand-chose, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas des gens qui comprennent que ça, ça ne peint pas n'importe quoi. Michel-Ange dirait, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris ce que c'était, c'est pas rien comprendre ça. Ce qu'était, par exemple, un large dos d'homme, pas de femme. Un large dos de femme ou un étroit dos de femme, ce serait autre chose, ce serait dos de peintre. Un large dos d'homme. Toute une vie pour un large dos d'homme, d'accord, toute une vie pour un large dos d'homme. Ça vaut la pomme de Cézanne. Comme dit Laurent, c'est pas des idées platoniciennes, ça. Il a aussi compris d'autres choses, Michel-Ange, mais enfin, c'est toujours assez réduit ce qu'un peintre arrive à comprendre. C'est-à-dire les faits picturaux qui l'amènent à jour. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Puisque je parle des faits, je ne peux pas dire tout ce que je dis, il me semble que c'est tantôt attaché à tel peintre, mais c'est aussi des choses qui valent pour la peinture, ou qui ne valent pas pour la peinture en général. Ça a toujours été comme ça, la tâche du peintre. De tout temps. Ça a été faire naître le fait pictural, ça a été lutter contre les données. Oui, je reprends mes trois temps qui sont un peu scolaires, mais souhaitons qu'il en sorte quelque chose. La lutte contre le fantôme ou contre les données. L'instauration du diagramme ou du chaos catastrophe. Et ce qui en sort, à savoir le fait pictural. Alors, je dirais presque, ça ne s'oppose pas, ça existe de tout temps dans la peinture, mais je me dis, ça peut exister de tout temps, mais d'une manière plus ou moins larvée. Je parlais de Michel-Ange tout à l'heure. Je dirais presque son importance en peinture, pour moi, c'est que c'est... Peut-être, il faudrait nuancer tout ça, il faut toujours beaucoup nuancer. C'est le premier peintre qui est amené à jour, presque sous sa forme la plus brute, ce que c'était qu'un fait pictural. Et je me dis, s'il fallait dater cette notion, ce serait Michel-Ange. Alors, si on essaie un peu, là maintenant... je prends donc un peintre tout à fait différent par les dates, par le style de ceux que j'avais considérés la dernière fois. Je dis, le fait pictural, il naît dans sa réalité, c'est-à-dire, il s'impose sur la toile avec Michel-Ange. Ce serait ça la peinture, ce serait ça l'apport insondable de Michel-Ange. Alors, si c'est vrai, mon impression, je me dis, c'est le moment ou jamais d'essayer de préciser qu'est-ce qu'on pourrait appeler le fait pictural par opposition aux données pré-picturales. Encore une fois, les données préfigurales, c'est le monde des clichés au sens le plus large du mot, c'est-à-dire ce contre quoi ou le monde des fantômes, c'est ce contre quoi, ou le monde de la fantaisie, ou le monde de l'imaginaire, tout ce que vous voulez, tout ça, là, j'y mets tout de ça, c'est le monde des données. C'est avec tout ça que le peintre a à rompre, à briser. S'il en reste là, il est perdu. S'il en reste là, ce sera un joli petit peintre, puis c'est tout. Voilà. Mais alors le fait pictural, pourquoi est-ce que il me semble que c'est Michel-Ange qui, d'une certaine manière, invente le fait pictural, ce qui ne contredit pas l'idée que j'ai aussi que ça existait tout le temps, mais c'est lui qui, précisément, le fait voir, nous le fait voir. Voilà. Là, j'en reste au niveau des anecdotes, parce que ça va nous faire avancer. Michel-Ange, d'abord, c'est avec lui que se fait véritablement un changement de statut du peintre. Je veux dire, le peintre, il fallait sans doute toute sa personnalité, il fallait aussi son époque, l'époque est bonne pour ça. Mais le peintre cesse d'être un type qui exécute des commandes. Je veux dire, les autres, ça ne les empêchait pas d'être géniaux et de faire passer tout ce qu'ils voulaient. Mais ils ne discutaient pas. Hein. Si un pape leur faisait une commande, ils ne discutaient pas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Michel-Ange? Très important au niveau de la pure anecdote. Je dis, la première anecdote que je retiens de Michel-Ange, c'est que Jules II, il lui dit de faire ceci. Et Jules II, il a des idées très précises sur ce qu'il veut. Et rien du tout. Rien du tout. Michel-Ange a fait complètement autre chose. Puis en plus, il discute avec le pape, il convainc le pape, et finalement, le pape, il en a marre, et il lui donne, comme on dit, carte blanche. Bon. Ça, c'est quelque chose, quand même, de nouveau. Bien, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire, picturalement, cette anecdote qu'il n'y a pas, qui, sinon, n'aurait pas grand intérêt. Bon, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Je prends une deuxième anecdote. Michel-Ange, c'est un de ceux chez qui éclate, alors peut-être que ça existait avant, peut-être que c'était moins visible, éclate une splendide indifférence au sujet. Alors sans doute tous les peintres, on verra ça, est-ce que c'est vrai, mais peut-être que le sujet, ça fait peut-être partie du cliché. Le sujet ou l'objet représenté, ça a peut-être été toujours, pour tous les peintres, ça, l'équivalent du cliché. Et c'est sans doute ça que, de tout temps, il fallait brouiller, pour qu'en sorte le fait pictural. En d'autres termes, le cliché, ça a toujours été l'objet. Bon. Alors, on brouillait le cliché, on brouillait l'objet, pour en faire sortir quoi? Ben, la réponse, elle est simple, le fait pictural qui était déjà la lumière et la couleur. Bien. Mais il se trouve qu'avec Michel-Ange, cette indifférence à l'objet ou au sujet prend une espèce d'air d'insolence telle que savoir quelle scène biblique représente un Michel-Ange, savoir qu'est-ce que font les personnages du fond, et on a presque honte de poser ces questions. Le fait qu'on ait honte de poser ces questions, et que particulièrement avec Michel-Ange, on ait honte de poser ces questions, là on se sent vraiment stupide quand on dit « Mais qu'est-ce que c'est que les quatre bons hommes dans le fond ?» Par exemple, quatre bons hommes au fond de la Sainte Famille, tout nu, avec une attitude que, du point de vue de la figuration, on ne peut appeler qu'une attitude homosexuelle prononcée. Qu'est-ce qu'ils font ces quatre bons hommes? Mais on s'en gêne de poser une question comme ça, on sent tellement il est stupide. Bon, c'est que, bon, dans la scène, ils font rien. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ça s'appelle la Sainte Famille, d'accord, bon. Splendide indifférence au sujet, là. C'est par là que je veux procéder par anecdote. On lui commande un tableau sur une bataille célèbre. Très bien, il dit bon, d'accord.
Et qu'est-ce qu'il fait?
Il ne fera pas le tableau, il ne pourra pas le faire, il fait un carton. Qu'est-ce que représente le carton? Un ensemble de jeunes gens nus, dans l'eau sortant de l'eau. Et dans le fond, des soldats. On se dit, ouf, il y a des soldats. Mais un ensemble de jeunes gens. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un chef-d'œuvre de Michel-Ange. Ces jeunes gens nus dans l'eau, splendides. Les soldats à l'horizon. Bon. Les érudits cherchent bien. Hein, même on se dit pourquoi il appelle ça bataille de Cassena. Les érudits cherchent bien. Alors, on trouve un commentateur de l'époque qui dit que dans cette bataille, un petit groupe de soldats florentins a pris un bain et que leur chef les a rappelés à plus de décence. Ils n'ont absolument pas été surpris. Pas du tout surpris. Bon, Michel-Ange, le sujet, ça l'intéresse pas beaucoup. La bataille, il dit, je vais faire des jeunes gens nus dans l'eau. Alors il dit, on veut une bataille, je vais flanquer. Alors il invente, épisode purement inventé, que ces jeunes gens nus dans l'eau, qui se baignaient, auraient été surpris par l'ennemi. Ah, ça fait un peu bataille, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est plus que de l'anecdote? Voilà. Je reviens, j'ai l'air de sauter, mais c'est pas tellement des sauts, tout ça reste très identique. Je reviens à ce peintre actuel dont je vous parlais, Bacon. Bacon ne cesse dans ses entretiens de dire il n'y a que deux dangers de la peinture, et ça c'est pas une idée originale, parce qu'il me semble que ça a été toujours l'idée de tous les peintres, il n'y a que deux dangers de la peinture, c'est l'illustration et pire encore la narration. Un très grand critique de peinture, Baudelaire, parlait déjà de ces dangers, illustration et narration. Et ce qu'on appelle la figuration, généralement, c'est la figuration, c'est le concept commun qui groupe ces deux choses, l'illustration et la narration. Alors, devant certains tableaux, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est quelqu'un qui coupe la tête à quelqu'un d'autre, etc. C'est une bataille, il y a tout un aspect figuratif, tout un aspect narratif. Bien. Alors, vous comprenez, à force de faire des cercles et de revenir toujours à mon point de départ, je dirais la lutte contre le cliché, c'est la lutte contre toute référence narrative et figurative. Un tableau n'a rien à figurer, un tableau n'a rien à raconter. C'est la base de tout. Si vous voulez raconter quelque chose, il faut prendre d'autres disciplines, il faut prendre des disciplines narratives. Un tableau n'a rien à faire avec un récit, c'est pas un récit. Donc, c'est bien, mais en même temps, comprenez, les narrations et les figurations, elles existent. Ce sont des données, avant même que le peintre ait commencé à peindre, ce sont des données. Et elles sont là, sur la toile, les figurations et les narrations. Et il y a un certain nombre de tableaux qui pourraient être très beaux, et dont on sait déjà que ce n'est pas de grands tableaux, précisément parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire « Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... » Non seulement qu'est-ce que ça représente, ça ce serait... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, Greuze, c'est une peinture narrative en quel sens? C'est que vous éprouvez le besoin. Il y a un très beau tableau de je ne sais plus quel Hollandais qui présente un père grondant sa fille. Et la fille, elle est vue de dos. D'un dos incliné. Et on ne peut pas voir ce tableau, là, il ne faut quand même pas nous tendre des pièges à ce point-là. On ne peut pas voir ce tableau sans se dire, mais quelle est l'expression de la fille? C'est pas bon, c'est pas bon. Je veux dire, ça peut être très, très joli, ça peut être formidable. C'est pas de la grande peinture. C'est vraiment un tableau qui est inséparable d'une narration. Comprenez, ça, ça va pas, ça. Ce qui me gêne, je dis ça, mais vous, c'est pas du tout. Ce qui me gêne abominablement dans un peintre actuel, pourtant très bon, comme Balthus, c'est que Balthus, on a constamment l'impression que l'image est prise, prélevée sur quelque chose qui se passe, sur il y a une histoire là-dedans. Non, mais je comprends que ceux qui aiment Balthus peut-être trouvent odieux ce que je dis. Alors je supprime, hein, je barre cet exemple qui fâche. Bon. Supprimer la narration et l'illustration, ce serait ça le rôle du diagramme et du chaos catastrophe. Donc supprimer toutes les données figuratives, car les figurations et les narrations, elles sont données. Elles sont données. Donc, faire passer les données figuratives et narratives par le chaos catastrophe, par la catastrophe germe, pour qu'en sorte quelque chose de tout à fait autre, à savoir le fait. Le fait, c'est quoi? Bacon le définit assez bien, et là, ça vaut vraiment pour toute la peinture. Le fait pictural, c'est lorsque vous avez plusieurs, on peut le voir mieux au niveau de plusieurs, lorsque vous avez plusieurs figures sur le tableau, sans que ça raconte aucune histoire. Et Bacon prend un exemple qui doit nous toucher, les baigneuses de Cézanne. Lui, c'est formidable, il a réussi à mettre 12 figures ou 14 figures, prenez toutes les versions des baigneuses, et il a réussi à mettre plusieurs figures, à faire coexister sur la toile, sous-entendu, sinon ça n'a aucun sens, avec nécessité. Avec nécessité. Bon, j'ajoute avec nécessité. Faire coexister plusieurs figures sans aucune histoire à raconter. S'il y a une nécessité de cette coexistence, vous présentez dès lors ce que c'est que le fait pictural. Cette nécessité propre de la peinture. Je prends un exemple particulièrement célèbre. Un très grand tableau du 19e présente une femme nue dans un bois, une femme nue et des hommes habillés. Tableau qui fit scandale du point de vue figuratif, en effet, cette femme nue et ces hommes habillés. Vous l'appréhendez picturalement lorsque vous supprimez toute histoire. L'histoire ne pourrait être que dégoûtante s'il y avait une histoire. Qu'est-ce que c'est que cette femme nue assise dans l'herbe avec ses hommes habillés? C'est une histoire de petit pervers, quoi. Comment supprimer toute donnée narrative, toute donnée figurative, pour faire surgir le fait pictural de ce corps nu par rapport au corps habillé, la gamme de couleurs ou la gamme de lumière, etc. Alors je reviens à Raphaël, à Michel-Ange, pardon. Je reviens à Michel-Ange. Dans ce tableau célèbre de Michel-Ange, la Sainte Famille, on dirait que là, il est plus scrupuleux. Il représente en effet la Sainte Famille. Et en même temps, l'indifférence au sujet éclate. Vous voyez, c'est seulement de l'indifférence au sujet que peut sortir le fait pictural. À savoir, la peinture engendre son propre fait. Et le fait, c'est quoi? C'est que il y a trois corps. Le petit Jésus est comme sur l'épaule de la Vierge. Les trois figures sont prises, là c'est très bien, vous verrez, si vous l'avez dans l'esprit, vous voyez tout de suite, dans une espèce de mouvement de serpentin. on appelait à l'époque, ça venait de Vinci, ce traitement des figures. Mais Michel-Ange l'a porté à un point, un mouvement de serpentin, comme si les trois figures étaient à la lettre coulées en un jet continu. Pas étonnant, après tout, que ce soit un sculpteur qui ait porté là, aux yeux de tous, ce que devait être le fait sculptural ou pictural. Peut-être que la sculpture était, c'était plus facile pour elle de faire surgir un fait sculptural. Mais en tant que peintre-sculpteur, Michel-Ange impose le fait nécessaire, le fait nécessairement pictural. Il l'impose. Ce mouvement de serpentin, en effet, va être prodigieux parce qu'il donne à l'enfant Jésus une position absolument dominatrice, qui va dès lors complètement fixer l'expression de la figure. La figure de l'enfant Jésus n'a figurativement cette expression qu'en vertu de sa position dans le serpentin. Et les trois corps sont donc coulés dans une seule et même figure. Une même figure pour trois corps. C'est ça, il n'y a pas d'histoire. Aucune histoire. Aucune narration. Et la figuration même s'écroule. À ce moment-là, le serpentin va distribuer toute une gamme de couleurs. Le serpentin joue exactement le rôle du diagramme. Qui brise avec les données figuratives et narratives pour faire surgir le fait pictural. Le fait pictural, c'est trois corps en une figure. Bon, trois corps en une figure, soit. La nécessité, là je ne peux pas vous dire, je trouve pas mes mots, donc il n'y a pas de problème. Qu'il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le faire. Qu'il y ait une nécessité picturale d'une même figure pour trois corps. Pas une nécessité figurative, pas une nécessité narrative. Une nécessité picturale, c'est-à-dire qu'il ne peut venir que de la lumière et de la couleur. Si bien que je dirais, mais les peintres, c'est des athées farouches. Et en même temps, c'est des athées qui hantent vraiment, au moins les peintres durs, qui hantent le christianisme. La manière dont ils arrachent le christianisme à toute figuration et narration pour en tirer un fait pictural. Là, on aura à trouver ce thème. Pourquoi le christianisme leur semble-t-il tellement, ou pourquoi est-ce qu'ils le vivent comme favorisant éminemment le surgissement du fait pictural. Ça date de longtemps, c'est, si vous voulez, c'est Byzance. Avec Byzance, c'est déjà un état pur. Quand il disait Michel-Ange, c'est lui. La naissance du fait pictural, c'était idiot, quitte à me corriger. La peinture de mosaïque à Byzance, elle est fondamentalement cette fondation du fait pictural. Bon, mais enfin, c'était en mosaïque surtout. Là, en peinture à l'huile, je me dis peut-être après tout qu'il faut attendre. Or, comment on a appelé le mouvement qui coïncide avec Michel-Ange et dont Michel-Ange fait réellement partie, quoi. Alors, je voudrais dire quelque chose sur ce point parce que ça m'intéresse beaucoup. Il y a un terme d'école. On a désigné toute une école dans laquelle Michel-Ange est comme prise, comme fondateur, co-fondateur au moins, et qui se prolongera bien après lui. On appelle ça les maniéristes. Et les maniéristes, pourquoi on a dit ça, maniéristes? C'est que les corps ont des attitudes très contournées. À la limite, elles sont très artificielles. Par exemple, dans la Sainte Famille, les quatre personnages du fond. Très artificielles, avec des grâces tantôt homosexuelles, tantôt des grâces contorsionnées. Le maniérisme, c'est bien intéressant comme
Or, chez un peintre comme Bacon, si vous voyez les tableaux de Bacon, vous retrouvez singulièrement l'influence de Michel-Ange sur Bacon, me paraît sûr. Si vous voulez voir ce que c'est que la découverte d'un large dos d'homme, il lui a fallu évidemment faire un triptyque, il en fallait trois. Il y a un triptyque de Bacon qui représente, vu de dos, un homme, une figure qui se rase. Hein. Enfin, je le montre comme ça, vous ne verrez rien, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Je le fais tourner lentement. Mais j'ai honte de vous montrer des images, ça devrait être vraiment un cours sans images. Vous avez vu? Bon, voyez les trois autres. C'est intéressant parce qu'il y a une gamme. La couleur, je crois, est nulle hein, de la reproduction. C'est une couleur difficile. Hein. En fait, c'est il y a une dominante rouge ocre, hein, une dominante bleue sur le panneau central et à droite coexistence du bleu et du rouge. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que prenons un problème, parce qu'on aura à le retrouver. Mais la question de la peinture, en vertu de ce qu'on vient de dire, mais que vous saviez déjà, c'est pas de peindre des choses visibles, c'est évidemment de peindre des choses invisibles. Or, il ne reproduit du visible, le peintre, que précisément pour capter de l'invisible. Or, c'est quoi? Peindre un large dos d'homme, c'est quoi? Ben, c'est pas peindre un dos, c'est peindre des forces qui s'exercent sur un dos, ou des forces qu'un dos exerce. C'est peindre des forces, c'est pas peindre des formes. L'acte de la peinture, le fait pictural, c'est lorsque la forme est mise en rapport avec une force. Or, les forces, c'est pas visible. Peindre des forces, en effet, c'est ça le fait. Tout le monde connaît le mot de clé. La peinture, il dit, il ne s'agit pas de rendre le visible, il s'agit de rendre visible. Sous-entendu, rendre visible l'invisible. Rendre visible quelque chose d'invisible. Bon, rendre le visible, c'est la figuration. Ce serait le donné pictural, c'est lui qui doit être détruit. Il est détruit par la catastrophe. La catastrophe, c'est quoi? Là, alors, on peut faire un petit progrès. La catastrophe, c'est le lieu des forces. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelle force. La catastrophe, c'est le lieu des forces. Le fait pictural, c'est la forme déformée. Qu'est-ce que c'est qu'une forme déformée? La déformation, ça c'est un concept cézannien. Il ne s'agit pas de transformer, les peintres ne transforment pas, ils déforment. La déformation comme concept pictural, c'est que la déformation de la forme, c'est la forme en tant que s'exerce sur elle une force. La force, elle n'a pas de forme, elle. C'est donc la déformation de la forme qui doit rendre visible la force qui n'a pas de forme. Qui doit faire rendre visible la force. S'il n'y a pas de force dans un tableau, il n'y a pas de tableau. Je dis ça parce que souvent on confond ça avec un autre problème qui est plus visible mais qui est beaucoup moins important. On confond ça avec un tout autre problème qui est celui de la décomposition et de la recomposition d'un effet. Je veux dire, prenez par exemple peinture de la Renaissance, décomposition, recomposition de la profondeur. Prenez des siècles après, l'impressionnisme, décomposition, recomposition de la couleur. Prenez après le cubisme ou d'une autre manière le futurisme. Décomposition, recomposition du mouvement. Bon. Je dis, c'est très intéressant ça, mais ça ne concerne que les effets. c'est pas ça. L'acte de peindre, c'est pas ça. C'est pas décomposer, recomposer en effet. C'est quoi? Je dis, c'est capturer une force. Et c'est ça, il semble, que veut dire Clé lorsqu'il dit il ne s'agit pas de rendre le visible, il s'agit de rendre visible. Donc il faudra que la forme soit suffisamment déformée pour que soit capturée une force. C'est pas une histoire, c'est pas une figuration, c'est pas une narration. Et le rôle du diagramme, ça va être d'établir un lieu des forces tel que la forme en sortira comme fait pictural, c'est-à-dire comme forme déformée en rapport avec une force. C'est dès lors la déformation de la forme picturale qui fait voir la force non visible. Je prends un exemple très simple, parce que là aussi Bacon a étrangement réussi. Ça, c'est un de ses domaines. Toujours dans la série de questions, pour chaque peintre, qu'est-ce qu'il a compris picturalement ? Bacon, qu'est-ce qu'il a compris picturalement ? Encore une fois, aucun peintre ne comprend beaucoup. Trop fatigant de comprendre quelque chose. Hein. C'est pas faux de dire ça, il en a eu pour la vie avec ses pommes. Bacon, si je me demande, bon, il a compris, en effet, dans un cas, dans un triptyque, il a compris un large dos d'homme. Mais là, c'est pas faux de dire, c'est peut-être pas le meilleur Bacon, parce que Michel-Ange l'avait compris et de la même manière. Bon, mais un large dos d'homme, ça veut dire y compris le rapport avec les forces. Quelle sorte de force ? Là, toutes sortes de forces. Dans le cas de Michel-Ange, et ça répondrait à ces variations de procédés, de style, tantôt c'est des forces intérieures.